Alors, c'est pour cette raison que je suis devant vous aujourd'hui. On a aussi on est béni d'avoir plusieurs prédicateurs et plusieurs séries qui courent à la fois. On a notre frère Dave à l'arrière qui a une série sur le décalogue. Notre frère et pasteur Christian qui a une série sur le prophète Osée. Notre pasteur de Québec, une série qui est sur Apocalypse. Et la mienne, cette série-là, qui est sur 1 Pierre, et nous sommes rendus à 1 Pierre 3. Et puis, je pensais à ça parce que je me suis dit... Parce que je me suis dit, on a justement cette bénédiction-là d'avoir un amalgame de prédications, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. On touche à beaucoup de livres en même temps. Et on a le plein conseil de Dieu. Alors, sans plus tarder, ouvrons ensemble la parole de Dieu. Nous sommes rendus à 1 Pierre 3, verset 1 au verset 7 inclusivement. Alors, je vous inviterai à vous lever également pour la lecture de la parole de Dieu. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. On peut s'asseoir. Alors, frères et sœurs, nous arrivons dans un passage de l'Épître de Pierre qui, à première vue, peut sembler difficile. On lit des exhortations qui sont adressées aux époux, aux maris, et avec des mots qui heurtent parfois notre sensibilité moderne, comme par exemple « être soumis à son mari » ou encore, dans le dernier verset, « comme à un sexe plus faible ». Mais pour bien comprendre, il est essentiel de replacer ces paroles-là dans l'ensemble de la lettre et dans le contexte historique dans lequel ils ont été écrits. Alors, Pierre n'écrit pas à des croyants installés confortablement, mais à des chrétiens qui étaient dispersés en Asie mineure, souvent isolés, minoritaires, marginalisés. Leur foi les exposait à la suspicion, aux calomnies, parfois même à la persécution. C'est pour ces raisons qu'il adresse son exhortation centrale au chapitre 2, qu'on a vu la dernière fois. « Ayez au milieu des nations une bonne conduite, afin que, la même où on vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, on remarque vos bonnes œuvres et que l'on glorifie Dieu. » 1 Pierre 2, 12. À partir de là, tout devient clair. Il montre comment cette bonne conduite doit se manifester dans les réalités les plus ordinaires de notre vie, dans les relations avec les autorités, dans le travail et jusque dans le mariage. Ce fil conducteur nous aide à voir que, loin d'être des paroles qui sont oppressives, cette exhortation veulent montrer que, justement, l'Évangile transforme la vie et même la vie quotidienne et devient un témoignage vivant pour le monde qui nous entoure. Alors, par exemple, on peut voir les quatre grandes sphères de la vie qui y sont touchées. Pierre les énumère. La première, les relations avec les autorités civiles, 1 Pierre 2, versets 13 à 17. Les relations entre serviteurs et maîtres, 1 Pierre 2, 18 à 25. Le passage qui nous intéresse aujourd'hui, les relations dans le mariage entre époux et épouse, 1 Pierre 3, 1 à 7. Et la prochaine sphère qu'on verra lors de la prochaine prédication, les relations entre les croyants, 1 Pierre 3, 8 à 12. Alors, cette progression entre les sphères de la vie est significative. Elle montre que l'Évangile, justement, n'est pas limité à seulement la sphère du culte dominical qu'on vit le dimanche, ou à notre vie spirituelle qui est privée. Mais l'Évangile transforme toutes les dimensions de l'existence humaine. Notre rapport à l'État, notre manière de travailler, notre vie de communauté et notre vie familiale. Pour Pierre, l'ordre social n'est pas seulement une contrainte extérieure. Il devient un lieu où la grâce de Dieu peut briller, un espace concret où la foi s'exprime par une conduite qui est honorable. Alors, il faut aussi souligner que l'apôtre s'appuie ici sur une forme littéraire qui était bien connue à son époque, qu'on appelait les codes domestiques, si je peux faire la traduction, là. Les règles qui organisaient la vie de famille et du foyer. Ces codes domestiques circulaient déjà dans le monde gréco-romain et juif de l'époque et précisaient les rôles attendus de chacun des membres de la maison. De la communauté plutôt. Citoyens vis-à-vis de l'État, esclaves vis-à-vis de leur maître, époux vis-à-vis de leur épouse vis-à-vis de leur mari, et parfois enfants vis-à-vis de leurs parents. L'apôtre Paul aussi, comme on le sait bien, reprend aussi cette liste, cette forme de faire dans ses lettres qu'on peut lire par exemple en Éphésiens 5, 5 et 6 ou en Colossiens 3. Mais la grande différence avec les codes domestiques traditionnels de l'époque, c'est que Pierre, et Paul aussi, ne se contente pas de répéter des normes sociales de son temps, mais il les transforme à la lumière de l'Évangile. Là où la culture qui les environnait voyait seulement des rapports de force et d'autorité, Pierre voit des occasions de manifester la grâce de Dieu dans leurs relations. Là où on imposait de simples obligations sociales, Pierre introduit une motivation nouvelle, celle de glorifier Christ et de rendre témoignage de lui au milieu d'un monde au travers de nos rapports sociaux. C'est avec cette perspective-là qu'il en vient au chapitre 3 à traiter de la relation entre mari et femme. Ce n'est pas dans le but d'imposer un carcan culturel que Pierre aborde ces relations-là entre mari et femme, mais c'est pour montrer comment l'Évangile éclaire et transforme même nos rôles conjugaux. Il ne les annule pas, mais il les redéfinit. Les responsabilités de l'époux et de l'épouse trouvent leur fondement non plus dans la culture, la tradition gréco-romaine, mais dans la façon de faire de notre temps, mais dans l'ordre que Dieu a voulu pour eux. Le mariage devient un lieu où, encore une fois, le témoignage de l'Évangile peut être manifesté. Un espace où les rôles qui sont assignés par notre Seigneur sont vécus comme un témoignage vivant de l'Évangile qu'on chérit au plus profond de notre cœur. Voilà le cadre dans lequel Pierre écrit sa lettre. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec un point. Mon premier point, faire différent. J'ai seulement deux points aujourd'hui, mais il y a plusieurs sous-points. Alors, premier point, la conduite des épouses chrétiennes est un témoignage pour leur mari, versets 1 à 6. « Alors, comme j'ai déjà dit, le passage qu'on traite aujourd'hui s'intéresse spécifiquement, seulement, aux relations conjugales. Pierre commence par s'adresser aux épouses. Dans un contexte où on s'attendait d'elles qu'elles adoptent la religion de leur mari et qu'elles se conforment à des codes sociaux sans discuter, l'apôtre interpelle les femmes chrétiennes comme de véritables agentes morales, responsables de leur conduite devant Dieu. Il développe alors son exhortation en trois volets. Alors, mon premier sous-point, le but missionnaire qui est gagné sans parole, versets 1 et 2. Pierre reconnaît que plusieurs femmes chrétiennes vivaient avec des maris non-croyants. L'apôtre ne leur dit pas d'abandonner leur foi, ni de cacher leur appartenance à Christ dans leur mariage, mais il leur montre une voie missionnaire, gagner leur mari par la qualité de leur conduite envers Dieu. Ce verbe « gagner » est employé ailleurs dans le Nouveau Testament dans un sens missionnaire, très proche de l'évangélisation. En grec, et là j'ai deux Grecs devant moi, le mot qui est utilisé c'est kerdaino. Vous corrigerez ma prononciation après le culte, qui signifie littéralement faire un gain, obtenir un profit, mais appliqué à l'évangile, il prend le sens d'amener quelqu'un, d'attirer quelqu'un, convaincre par le témoignage. Paul emploie aussi ce même terme dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 9, lorsqu'il dit « Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, afin de gagner, kerdaino, ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner, encore une fois, les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver, sozo, de toute manière, quelques-uns, versets 21 et 22. » Alors, à mon avis, ce passage-là montre bien la nuance. Gagner désigne le rôle du croyant par sa conduite et son témoignage qui attire l'autre vers la foi. Sauver désigne, sozo dans ce contexte-là, désigne l'œuvre de Dieu lui-même, l'action que Dieu fait dans le cœur et à lorsqu'il accorde la vie éternelle aux croyants. Pierre emploie le premier terme, kerdaino. Il n'affirme pas que l'épouse peut sauver son mari par elle-même. Cela appartient à Dieu seul. C'est Dieu qui se révèle au cœur de l'être humain. Mais il dit qu'elle peut la gagner, c'est-à-dire créer un terrain favorable par lequel le Seigneur agira. Il la rend donc participante à l'œuvre qu'il désire opérer dans son cœur. Autrement dit, gagner une personne, c'est de devenir l'instrument par lequel elle entrevoit la personne, le mari, l'amour du Christ, discerne la présence de son Créateur au travers de sa relation conjugale. Ce qui retient particulièrement l'attention, c'est la manière que Pierre recommande d'agir sans parole. Non pas que la parole de Dieu, l'évangélisation soit inutile, elle demeure centrale et nécessaire au salut, comme on peut lire dans plusieurs textes, dont Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Pierre sait que dans les relations conjugales, multiplier les disputes de mots et les débats religieux, c'est stérile, ça mène à rien. Ici, c'est la qualité de la conduite qui devient comme une prédication incarnée pour le mari non-croyant. Les maris qui désobéissent à la parole, c'est-à-dire qui ont déjà entendu l'Évangile, mais l'ont rejeté, dans ce cas, il ne sert à rien de répéter sans cesse les mêmes arguments et d'annoncer l'Évangile sans fin, comme si la personne ne l'avait jamais entendu ou que c'était un problème cognitif pour lequel elle n'était pas convertie. Ce n'est pas le manque de compréhension le problème, mais c'est une rébellion du cœur qui n'a pas été encore éclairée par l'Esprit de Dieu. Oups. Comme dirait notre cher pasteur, le cœur du problème, c'est le problème du cœur, alors c'est C'est exactement à propos. Pierre appelle plutôt les femmes à une autre stratégie missionnaire, si on peut l'appeler ainsi. Manifester l'Évangile dans leur vie quotidienne. Leur soumission, leur douceur, leur fidélité, leur respect révérencieux envers leur Dieu deviennent le langage silencieux qui gagne les maris en l'exposant de nouveau, de façon concrète, si on peut dire, à la réalité de la grâce par la vie et par sa piété. Alors, c'est pour ça qu'il précise que les maris incrédules seront touchés lorsqu'ils observeront la conduite de leurs épouses. Alors, encore une fois, le verbe suggère plutôt une observation attentive, une observation soutenue, comme lors d'un examen. Le mari regarde sa femme, il scrute son comportement, il constate ce qui a changé avant et après la conversion. Et ce qu'il découvre, c'est une vie respectueuse et chaste. Il remarque que son comportement, ses réactions dans les tensions, sa manière de gérer les désaccords, ses choix quand personne d'autre ne la voit, il voit que ça la distingue, et c'est ce qui... Excusez-moi, je reprends cette phrase-là. Il voit ce qui la distingue, ce qui ne s'explique pas par la logique du monde. Concrètement, cela se traduit par une attitude de retenue et de dignité qui refuse les querelles inutiles et choisit la paix quand il y a des tensions. Cela se voit dans un cœur qui n'est pas obsédé par la parure extérieure, les coiffures, les bijoux, les vêtements luxueux, mais qui cultive une beauté qui est à l'intérieur, incorruptible, façonnée par un esprit doux et paisible, comme il est mentionné au verset 4. Ça se manifeste par une confiance quotidienne en notre Dieu. Plutôt que de céder à des peurs ou à l'intimidation, la femme chrétienne montre par son calme et sa constance que son espérance est enracinée ailleurs. Il observe par exemple qu'au lieu de répondre par la colère à ces injustices qu'elle peut vivre, elle choisit plutôt la douceur. Il note qu'au lieu d'entrer dans les mêmes jeux de pouvoir ou de revendication que pourrait le faire une femme non-croyante, elle répond par une dignité, par des paroles paisibles. Ce que Pierre enseigne pour l'ensemble de la communauté en 1 Pierre 2:12, que la conduite honorable des croyants peut conduire les païens à glorifier Dieu, dans le chapitre précédent, trouve ici une application encore plus particulière dans le foyer chrétien. L'épouse chrétienne devient en quelque sorte missionnaire dans sa propre maison, là où dans les sociétés, les chrétiens sont observés par leurs voisins et jugés sur leur comportement. Dans le mariage, c'est le mari qui scrute, qui observe sa femme au quotidien. Alors, sa fidélité, sa pureté de vie et son respect envers son mari et son Dieu rendent tangible, à petite échelle, le même principe qui agit dans l'ensemble de la société. Une vie transformée par l'Évangile est un témoignage plus puissant que n'importe quel discours. Alors, mon deuxième sous-point, la vraie beauté, elle est intérieure et incorruptible. Alors, dans la société du premier siècle, surtout dans les milieux les plus aisés, les femmes étaient considérées comme les porteuses de l'honneur de leur mari. Leur apparence en public reflétait la réussite sociale et la richesse de la maison. Une épouse vêtue avec luxe devenait le signe visible de la puissance économique et de l'influence de son mari. À l'inverse, une tenue qui était jugée négligée pouvait ternir la réputation de son mari et par extension la réputation familiale. Beaucoup de femmes venaient ainsi à intérioriser cette vision réductrice, beaucoup de femmes chrétiennes, qui les transformaient en objets esthétiques ou des instruments de prestige. Leur valeur n'était pas reconnue pour ce qu'elles étaient, eux, mais pour l'image qu'elles reflétaient de leur mari. Cette logique imposait une double pression sur elles. D'un côté, attirer le regard des gens sur l'apparence physique de la femme, et l'autre, de l'autre côté, rivaliser avec les autres femmes par des parures toujours plus luxueuses afin de marquer une place dans la hiérarchie sociale. Alors, bien évidemment, Pierre s'oppose à ce genre de conception du monde. Et il ne se limite pas à prêcher simplement une modestie. Ben, il prêche la modestie, mais avec un but bien précis. Il redonne aux femmes leur dignité en les libérant d'un système qui est, on pourrait dire, malsain, qui les réduisait à un simple ornement social. Il rappelle que la beauté véritable ne peut pas être définie par des codes de prestige imposés, empruntés par la société, ni par des attentes d'un mari non-croyant qui voulait voir son épouse s'y conformer. Mais lorsqu'elle, la femme chrétienne, vit selon l'appel que Pierre fait dans sa lettre, dans la douceur, la fidélité, la crainte de Dieu, elle devient pour son mari un honneur encore beaucoup plus grand. Un honneur qui est authentique, durable, précieux aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Elle est véritablement édifiante pour les autres. Là où le monde exigeait qu'elle soit la vitrine du prestige masculin, Pierre l'invite à devenir le reflet du caractère divin. Alors, permettez-moi de faire un amalgame entre ce passage et 1 Pierre 1, 24-25. Le prestige du monde passe comme l'herbe qui sèche et la fleur qui tombe, mais la femme qui s'attache à Dieu porte une beauté dont l'effet demeure pour l'éternité. Alors, vous avez bien reconnu le passage dans l'Épître de Pierre. J'ai un peu modifié. Alors, voilà mon amalgame. Voilà des paroles qui ne vieillissent pas. Elles s'adressaient aux femmes du premier siècle, mais elles continuent de parler à nos cœurs aujourd'hui. C'est pas juste un livre qui parlait aux gens de l'Antiquité, mais ça parle toujours à nous aujourd'hui. On peut être honnête, hein, les pressions sociales, les pressions de ce monde-là, ben, existent toujours et sont même présentes avec nous jusque dans notre main, jusque dans notre cellulaire. À l'époque, les pressions, c'était celles d'un mari ou d'un entourage qui voulait voir sa femme bien parée, avec des vêtements qui montraient le statut de la famille. Aujourd'hui, c'est différent, mais c'est un peu la même logique. Ce sont les réseaux sociaux, la mode, les standards de beauté impossibles qui disent à la femme qu'elle doit être parfaite, séduisante, toujours impeccable. On met une pression énorme sur leur apparence. Mais Dieu, à travers la parole de Pierre, nous rappelle que ce n'est pas ça qui définit la vraie valeur d'une personne, et dans ce cas-là, dans la vraie valeur de la femme. Ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas une façade qui est brillante, mais un cœur qui est habité par la douceur, la fidélité et la paix qui vient de notre Dieu. On pourrait dire, ça, c'est pas seulement pour les femmes. Nous aussi, les hommes, on est tentés de mesurer la valeur des autres parce qu'ils affichent à l'extérieur leur succès, leur richesse, l'image. Mais Dieu nous appelle à voir plus loin que ces codes-là. Et cela commence dans notre propre foyer. Ne pas réduire notre épouse à son apparence ou à ce qu'elle reflète socialement, mais à apprendre à discerner et à honorer en elle la beauté qui est incorruptible, que Dieu façonne dans son cœur. Comme Marie, nous sommes appelés aussi à valoriser cette grâce qui demeure, à encourager la foi et la fidélité de nos femmes et à refuser de tomber nous-mêmes dans les pièges d'une société qui est obsédée par l'image. Voilà pourquoi ce texte-là, à mon avis, reste tellement actuel et pertinent aujourd'hui. Mais premièrement, c'est la parole de Dieu, mais je trouve qu'il y a des belles applications pour aujourd'hui. Il nous pousse à poser une vraie question. Qu'est-ce qui définit véritablement ma valeur? Est-ce l'image extérieure qui est faite pour que les gens la remarquent? Ou l'œuvre intérieure que Dieu fait en moi? c'est une invitation à revoir nos priorités, un peu moins de temps à polir notre image extérieure, peut-être un peu plus de temps à cultiver l'homme et la femme intérieure. Pour bien montrer que ce n'est pas une idée nouvelle, Pierre s'appuie sur des exemples de l'histoire biblique. Il nous rappelle l'histoire de Sarah et des saintes femmes de l'Ancien Testament qui avaient déjà compris que la vraie beauté, c'est celle qui s'enracine dans la confiance en Dieu et qui se manifeste par la modestie. Alors, troisième sous-point, l'exemple biblique, Sarah et les saintes femmes, versets 5 et 6. Pour que les sœurs de l'Église comprennent bien la portée de son exhortation, Pierre, encore une fois, les replace dans une lignée historique des femmes qui mettaient leur confiance en Dieu. Il ne leur demande pas quelque chose de nouveau ou d'impossible, mais il leur rappelle que depuis toujours, les femmes ont toujours trouvé leur véritable force et leur beauté dans leur confiance, dans leur amour pour leur Sauveur. Pour affermir son exhortation, il l'enracine justement dans l'histoire du salut. Il dit que les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient non pas de bijoux, mais d'une confiance ferme en l'Éternel, et il cite Sarah comme modèle. Dans une culture gréco-romaine, comme on l'a dit plus haut, les femmes étaient considérées comme dépendantes de leur mari, jusque dans leur vie religieuse. Pierre ose présenter des femmes de l'Ancien Testament comme des actrices spirituelles à part entière, des modèles de foi et de courage. Leur ornement n'était pas extérieur, mais intérieur. Elles plaçaient leur espérance en Dieu, encore une fois. Cette espérance, dit en Hébreux 11, est ce qui fait vivre tous les croyants avant sa venue. C'est dans la foi, Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, ou encore, même on pourrait dire, la femme vertueuse du Proverbe 31, ont toutes exprimé leur beauté véritable et leur qui se manifeste justement par un attachement aux promesses divines. Prenons l'exemple de Sarah. Lorsqu'elle demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël, Dieu dit à Abraham, « Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. » Alors, ça montre bien l'importance de la femme que Dieu a placée à ses côtés. Elle n'est pas simplement une épouse qui est silencieuse, mais elle donne des conseils à son mari. Sa parole a de la valeur dans leur couple. Sarah reflète une réelle force de caractère. Abraham ne veut pas l'écouter et Dieu doit intervenir pour lui dire que ce que sa femme avait à cœur était bel et bien la volonté du Seigneur. Sarah représente à la fois la soumission à son mari, comme le dit le texte biblique, et la fermeté d'une femme qui place son espérance en l'Éternel malgré les incertitudes de la vie. Vous connaissez tous l'histoire. Alors, c'est justement cela... Pierre, justement, appelle les femmes à cette soumission, non pas à une obéissance aveugle ou servile, mais à un choix volontaire fait dans la crainte de Dieu, d'honorer le leadership de son mari et de reconnaître sa responsabilité à elle devant le Seigneur. Alors, la soumission biblique, c'est de se soumettre à la direction que le mari veut pour sa famille et le soutenir dans ses décisions-là. L'encourager et contribuer au bien spirituel du foyer. Alors, comme Sarah l'a fait lorsqu'elle a bien conseillé son mari, sans renoncer à ses dons, ni se taire face au mal, c'est marcher dans la confiance que Dieu dirige et protège, même quand le chemin semble difficile. Alors, Sarah ne s'est pas tue, mais elle est restée droite, et elle a quand même honoré son mari, malgré cet écart-là où ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, cette exhortation demeure valable même lorsqu'une femme est mariée à un homme non-croyant. Car l'ordre que Dieu a établi entre l'homme et la femme ne dépend pas des circonstances ou de la foi de l'un et de l'autre. Même si le mari n'honore pas Christ, Dieu honore l'attitude de l'épouse qui choisit de vivre selon le plan qu'il veut pour la famille. Il bénit sa fidélité, il l'utilise comme moyen de grâce pour préserver son foyer à cette femme-là et manifester la gloire de Dieu dans son foyer. Alors, pour conclure cette section concernant les femmes, le verset 6 dit « Vous êtes devenues ses filles si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Alors, ce n'est pas seulement une question de se libérer des pressions sociales ou religieuses de l'époque, évoquées plus haut, mais d'apprendre à vivre sans être paralysé par la peur. La crainte dans ce contexte-là pouvait prendre plusieurs visages. Il y avait d'abord la pression sociale, comme on a dit tout à l'heure. Une épouse qui ne se conformait pas aux attentes de son mari ou aux normes de sa communauté risquait d'être pointée du doigt, d'être isolée ou même rejetée par son mari. Il y avait ensuite les menaces directes d'un mari incrédule qui pouvait chercher à l'intimider, par la contrainte ou abandonner même sa foi. Parce que, comme vous vous rappelez, la femme devait suivre la foi de son mari. Elle pouvait peut-être même la réduire au silence. À cela s'ajoutait l'incertitude matérielle. Une femme dépendait souvent de son mari pour sa subsistance. Choisir de rester ferme dans la foi pouvait sembler risqué. Ça pouvait sembler risquer la stabilité de son foyer, voire la sécurité même de ses enfants et la pousser à la crainte. Alors, pour nous aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que les hommes, autant que les femmes, travaillent et peuvent pourvoir à leurs besoins. Mais à l'époque, cette crainte-là était réelle pour les femmes qui avaient un mari non-croyant. Mais Pierre rappelle que leur véritable identité est d'être fille de Sarah, héritière d'une promesse enracinée dans une espérance qui est indestructible. C'est pourquoi, comme le dit le psaume 56, versets 4 et 5, j'aurais pu en citer plein d'autres qui vont dans le même sens, il dit que quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'épouse chrétienne, comme on l'a dit, elle est définie par sa confiance en Dieu quand les craintes se manifestent. C'est bien beau de dire qu'on fait confiance en Dieu, mais quand les craintes se pointent le bout du nez, c'est là qu'on voit la fermeté de la foi de cette femme-là. Elle vit dans la paix non parce que les circonstances sont faciles, mais parce que son regard est fixé sur Dieu qui la soutient et la préserve dans toutes les situations qu'elle vit. Alors, en conclusion de cette section-là, ce passage, à mon avis, représente une véritable révolution spirituelle. Alors que la culture exigeait des femmes qu'elles se plient aux attentes sociales, Pierre leur rend à nouveau leur dignité. Elles sont filles de Sarah, héritières de la promesse de la grâce, au même titre que les hommes, en Galates 3, 28. Leur beauté ne se repose pas sur l'apparence ni les codes du monde, mais sur l'identité au sein du peuple de Dieu et sur leur confiance ferme dans des promesses qui sont éternelles. Alors, mon dernier point, la conduite des maris chrétiens comme témoignage. Verset 7. Alors, après avoir adressé ses exhortations aux femmes, Pierre maintenant se tourne vers les maris. Alors, encore une fois, l'autorité du mari à l'époque était rarement remise en question. Alors, il n'était pas seulement responsable de ses biens et de ses enfants. Il exerçait aussi une influence décisive sur la vie religieuse et sociale de tout son foyer. Son épouse, quant à elle, restait légalement et socialement vulnérable, dépendante de lui pour sa sécurité et sa reconnaissance publique, comme je l'ai mentionné plus haut. Alors, ce cadre-là donnait au mari une position dominante, mais aussi une grande tentation d'abuser de son autorité. Alors, c'est précisément là que l'exhortation de Pierre prend tout son poids. Au lieu de se servir de cette position-là d'autorité pour imposer, il appelle le mari chrétien à la transformer en responsabilité d'aimer sa femme, de comprendre et de l'honorer comme un don précieux que Dieu lui a donné. Pierre connaît ce contexte, mais il ne se contente pas de répéter ce que le monde attend de lui qui attend de lui. Il prend ce cadre qui existait déjà dans la société, donc cadre de par rapport à l'État, par rapport à la famille, et le transforme encore une fois à la lumière de l'Évangile. Quand il parle de la femme comme d'un vase plus faible, il ne dit pas qu'elle est moins intelligente ou moins spirituelle, mais il reconnaît qu'elle est souvent plus vulnérable dans le système de ce monde, physiquement, socialement, économiquement. Encore une fois, c'était beaucoup plus vrai à l'époque. Et plutôt que d'encourager justement les maris à profiter de cette position de force, il leur donne un commandement qui est radical pour leur époque. Vivre avec leur femme selon la connaissance que Dieu donne. Autrement dit, avec une compréhension, une attention et soins et des soins envers elles. Il leur demande de les honorer, de leur accorder un respect réel et concret, et surtout de se rappeler qu'elles sont co-héritières de la grâce de la vie avec eux, Galates 3:28. Pour être clair, Pierre ne renverse pas l'idée que le mari a une responsabilité dans son foyer, mais il la redéfinit complètement. Le mari chrétien n'est pas chef pour dominer, mais pour aimer, protéger et valoriser sa femme. Et Pierre va encore plus loin dans son texte lorsqu'il dit que si un mari traite sa femme avec dureté, s'il méprise ou la néglige, cela bloque même sa relation avec Dieu. Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alors, la façon dont un homme se comporte avec sa femme révèle la réalité de sa foi, et Dieu prend cela vraiment au sérieux. Nous, les maris, devons prendre le temps de vraiment connaître notre femme. Apprenons à découvrir ses besoins particuliers, ses forces, ses fragilités, son cheminement spirituel et tout ce qui fait partie de sa vie personnelle. Et ça, ce n'est pas une chose qui se règle une fois pour toutes, mais c'est un apprentissage constant avec les années de mariage, un chemin où on grandit avec elle. Connaître sa femme, ce n'est pas seulement savoir ce qu'elle aime manger ou les tâches qu'elle accomplit dans la maison, mais c'est d'entrer dans la profondeur de son cœur, comprendre ce qui la réjouit, ce qui l'attriste, ce qui la fatigue, ce qui la fait grandir dans sa foi. C'est ce qui fait partie justement de notre rôle en tant que chef spirituel. Prier pour elle, avec elle, l'encourager dans sa marche chrétienne. L'aider à porter ses fardeaux quand elle vit des difficultés. Prendre des décisions en cherchant d'abord la volonté de Dieu et en consultant notre femme. Et créer dans notre foyer une atmosphère où la foi peut grandir, où l'amour envers l'un et l'autre, envers nos enfants aussi, peut grandir. Alors, être chef spirituel, ce n'est pas de dominer, mais c'est d'assumer la responsabilité de conduire notre couple et notre famille dans les voies du Seigneur, en reflétant la patience, la tendresse et l'amour que Christ a envers son Église. Alors, honorer sa femme comme un vase plus faible, ça peut nous surprendre aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'elle était inférieure moralement spirituelle. C'était véritablement... elle était vraiment, à l'époque, plus faible dans le sens qu'elle pouvait être mise dehors de sa maison et elle n'allait pas avoir la nourriture pour pourvoir à ses besoins. Elle était vraiment dépendante de son mari. Mais elle est également elle a la même valeur aux yeux du Seigneur que l'homme. Dans un monde où l'on considérait souvent la femme comme spirituellement reliée à son mari, elle passait par l'autorité de son mari. Désolé, je me suis mélangé. Oups. Okay. Désolé, c'est une répétition. Alors, dernier sous-point du deuxième point. Désolé pour cette répétition-là. Alors, Pierre conclut par un avertissement sérieux. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alors, en clair, si tu méprises ta femme, si tu la négliges ou si tu la rabaisses, ne t'attends pas à avoir une vie spirituelle en bon état, en bonne santé. Tu peux bien lever les mains dans la prière, avoir l'air du meilleur des chrétiens à l'église, chanter des cantiques ou lire ta Bible à tous les jours. Mais si dans ton couple, il y a du manque de respect, il manque d'amour, ben tes prières vont heurter un mur. Puis le Seigneur, il te renvoie vers ta femme, aller te réconcilier avec ta femme. La relation conjugale est tellement intime, tellement sacrée, que la manière dont tu traites ta femme a un impact direct sur ta relation avec Dieu. Jésus même le dit un peu dans ce sens-là, pas nécessairement envers les couples, mais il le dit que en Matthieu 5, 23, on ne peut pas s'approcher de l'autel si nos relations entre les frères sont brisées. Dieu ne se laisse pas tromper par une piété de façade. La première école de la foi, c'est notre maison. La première preuve d'une vraie maturité spirituelle, ce n'est pas la théologie qu'on maîtrise ou le ministère qu'un homme peut exercer, mais c'est vraiment la manière dont tu aimes les gens que Dieu a placés sous toi. Alors, si tu te crois le chef de ton foyer, mais que tu n'aimes pas ta femme comme Christ aime l'Église, tu te fais que t'illusionner toi-même. En réalité, tu te coupes toi-même de la bénédiction que Dieu veut pour toi et qu'il veut pour tout ton foyer. Mais si tu prends soin d'elle, si tu l'honores et la considères comme co-héritière de la grâce, si tu ouvres grand la porte à la faveur de Dieu qui est dans ta vie, dans sa vie, tes prières deviennent puissantes parce qu'elles s'accordent avec justement la volonté de Dieu, de la paix dans la famille. Alors, ce texte reste percutant aujourd'hui. Pierre nous appelle à bien plus qu'un rôle de pourvoyeur et de prise de décision. Il nous appelle à être des hommes qui connaissent leurs femmes, qui les écoutent, qui les respectent, qui les soutiennent comme des dons précieux de Dieu. Il nous rappelle que notre vie spirituelle dépend directement de la manière dont nous traitons nos épouses. Mépriser, négliger ou rabaisser sa femme, c'est se tourner à dos contre Dieu. Mais l'aimer, l'honorer, l'élever, c'est refléter le Christ. Ouvrir toute grande la porte à une vie remplie de joie, remplie de bonté, des jours heureux sur la terre que Dieu nous a donnée. Alors, prions ensemble. Ô Seigneur, notre Dieu, ta parole éclaire nos vies. Ta parole nous donne instruction. Seigneur, tant de fois on peut lire l'Écriture et certaines nuances peuvent nous échapper. Mais merci que tu nous appelles en église, en communauté le dimanche, où on peut entendre ta parole prêchée, où on peut avoir ton conseil souverain sur nos vies. Seigneur, change nos cœurs. Que nous, Marie, nous soyons à l'exemple de Christ. Que nous aimions nos femmes comme il a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle sur la croix infâme. Merci, Seigneur, parce que tu as pris en considération nos désirs, Merci, notre Dieu, parce que quand nous te prions, tu nous écoutes. Tu veux que nous écoutions également nos femmes. Merci parce que tu es patient envers nous quand nous péchons contre toi, quand nous sommes durs d'oreille et tu désires que nous soyons patients envers nos femmes, envers nos enfants, envers les gens qui nous entourent. Ô Dieu puissant, restaure nos cœurs. Donne-nous une vision claire de ce que tu t'attends de nous pour nos foyers. Merci pour cette parole qui a éclairé vraiment ce que tu t'attends de nous. Donne aux femmes, Seigneur, de rechercher cette piété, cette douceur, cette beauté intérieure, et non pas qu'elles se conforment aux attentes de ce monde, mais qu'elle se conforme à ta parole en ayant un esprit doux et paisible, parce que c'est ça qui gagne le cœur des hommes, qui gagne le cœur même de leur mari dans ce contexte-là. Ô notre Dieu, tu es fidèle et tout ton conseil est bon pour nous, pour notre Église locale, mais pour tous les chrétiens au travers le monde. Nous voulons te glorifier encore aujourd'hui et nous venons devant toi pour te louer encore par des chants et prendre la scène tous ensemble, communier avec toi, communier les uns avec les autres. C'est au nom de Jésus, Père, que je te prie.